Chapitre 16. Pour passer à la frontière, maintenant que Sylvain l'a forcé à travailler, Germaine employait le stratagème qu'il lui avait enseigné. Elle partait avec une amie, entrait avec elle en Belgique. Et pour le retour, elle laissait sa compagne s'en aller en avant jusqu'au poste de douane. Arrivée là, l'amie, qui n'avait sur elle aucune marchandise prohibée, passait tranquillement, en ayant soin toutefois de jeter un coup d'œil à l'intérieur du poste pour voir si la visiteuse était dans le bureau. Si elle l'y voyait, à peine dépassée la frontière, elle faisait de loin un signe à Germaine, qui, à une centaine de mètres de là, toujours en Belgique, attendait sans la quitter des yeux. Et Germaine comprenait ce signal, il était bien visible. La compagne, sans se retourner, pour ne pas attirer l'attention des douaniers, s'arrêtait quelques secondes, faisait semblant de rattacher sa jarretière au-dessus de son genou, puis elle continuait sa marche. Mais cela avait suffi. Germaine savait que la visiteuse était là. Elle ne risquait pas l'aventure. Elle faisait demi-tour, rapportait le tabac dans la petite épicerie où elle se fournissait et attendait un jour plus favorable. Si la compagne s'éloignait sans avoir fait le signe convenu, Germaine, à son tour, passait la frontière. Elle était jolie femme, de cette race lourde et bien en chair que les gens du peuple recherchent, et elle savait user de cette force. Elle saluait les douaniers d'un bonjour tout souriant. Elle répondait gaillardement aux plaisanteries galantes des plus hardis. Elle rabattait d'une tape énergique, mais point effarouchée, la main téméraire qui se risquait vers ses charmes, sans se douter qu'ils étaient de contrebande. Et elle passait ainsi tranquillement ses 3 kilos de tabac à chaque voyage. Il lui arriva 2 ou 3 fois de tomber sur un douanier plus sévère qui, voulant faire du zèle et s'étournant de l'opulence de cette poitrine, parlait de la fouiller. Mais Germaine connaissait le rôle à jouer en cette occurrence. Elle feignait l'indignation, refusait obstinément de se laisser fouiller, exigeait qu'on la fît entrer dans le poste et qu'on allât quérir une visiteuse. Cette énergie impressionnait les douaniers. Et pour éviter le dérangement d'aller chercher une femme et de procéder à toutes ces opérations ennuyeuses, ils avaient chaque fois laissé partir Germaine sans plus insister. C'était pour cela que Germaine ne s'aventurait qu'en l'absence de la visiteuse. Ce jour-là, comme d'habitude, elle était allée chercher son tabac, 3 kilos de Richemont, dans une petite boutique, juste derrière le bureau des douaniers belges, qui était en retrait de la frontière d'une centaine de mètres. Elle entra dans la cuisine de la boutiquière, elle plaça les paquets de tabac sous son corset, les massant à la place des seins et, derrière, autour des hanches. Avant de sortir, elle se regarda longuement dans une glace. Sa charge ne pouvait pas se deviner. Germaine paraissait seulement un peu plus ronde. Satisfaite, elle paya son dû et sortit, rejoignit sa compagne qui l'attendait sur le trottoir. « Vas-y, dit-elle, je te suis. » L'ami partit en avant. À 100 mètres derrière venait Germaine. De loin, elle ne quittait pas des yeux la silhouette de sa compagne. L'ami arrivait devant le bureau français. Elle s'arrêta. Germaine la vit, qui parlait familièrement à l'un des préposés et, tout en riant, regardait par la fenêtre à l'intérieur du poste. Puis elle passa. « Hé, Germaine !» cria quelqu'un à ce moment. Germaine se retourna. Elle reconnut une vieille femme avec qui elle avait travaillé autrefois. « Ça va, Honorine ?» demanda-t-elle. « Ben oui. Et toi, qu'est-ce que tu deviens ? Et Sylvain ?»« Ça va toujours aussi. Tu vas en Belgique ?»« Oui, dire bonjour à ma fille. Et qu'est-ce que tu fais maintenant ?»« Rien. Sylvain gagne bien la vie. Mais fais pas attention, Honorine. Je suis pressée. À l'occasion, on se parlera un peu plus longtemps, hein ?» « C'est ça, des compliments à ton homme. J'aurai soin. » Germaine reprit sa route, mais devant elle, elle ne vit plus sa compagne. L'ami était parti. Avait-elle, ou non, fait le signe convenu ? Germaine ne pouvait le dire. Quelques secondes, Germaine hésita. Et si la visiteuse était là ? Germaine eut envie de retourner sur ses pas pour recommencer un peu plus tard. Puis elle se décida tout de même. Ce serait bien le diable que la compagne se fût arrêtée, eût pu se baisser, raccrocher ostensiblement sa jarretière et repartir avant que Germaine l'eût vue. « Je n'ai pas parlé une demi-minute avec Honorine, » se dit-elle. Et, hardiment, elle passa la frontière marquée par un poteau. Elle s'avança jusqu'au poste de douane. Un énorme câble, maintenu rigide par une longue planche, s'accrochait à deux bornes de ciment et barrait le pavé. Mais, sur le trottoir, le passage était libre. « Rien à déclarer, la belle !» demanda le douanier, un Corse, à en juger par son accent. « Rien du tout !» répondit Germaine, ouvrant le filet vide qu'elle portait à son bras pour se donner l'air d'une ménagère qui part en course. Et comme elle voyait que l'homme regardait avec insistance sa poitrine gonflée de façon anormale, elle voulut brusquer les choses et passer outre. « Pas si vite, pas si vite !» dit l'homme la retenant par le bras. « Et là, il n'y a rien ?»« Bas les pattes !» cria Germaine, jouant l'indignation. « Je ne veux pas qu'on me touche !»« C'est bon, entrez au bureau, on va vous visiter. »« Vous ne pensez pas, bien sûr, que je vais me laisser visiter par un homme ?» La visiteuse est là. Germaine se sentit inondée de sueur. Elle était prise. C'était la première fois. Elle éprouvait une telle émotion que, malgré son assurance de femme qui en a vu de toutes les sortes, son visage se décomposa. Le douanier s'en aperçut. « Allons, entrez, entrez » dit-il sur un ton d'impatience. « Ce n'est pas la peine, monsieur, puisque je vous dis que je n'ai rien !» Elle lui lança un regard suppliant, elle essayait de le toucher, de l'attendrir. Mais l'homme ne se laissait pas ébranler. « On verra bien, » dit-il, « dépêchez-vous !» Brusquement, Germaine lui donna une poussée vigoureuse, le repoussa sur le banc placé contre le mur, si fort qu'il s'y assit malgré lui, et elle s'élança vers la frontière. La Belgique n'était pas à 100 mètres. Si elle l'atteignait, elle était sauvée. « Femelle !» cria le douanier. Et il fut debout tout de suite, il courut derrière Germaine. Elle entendit derrière elle le bruit de ses lourds souliers ferrés. Germaine était lisse et robuste. Elle distançait le douanier, elle n'était plus qu'à 10 mètres de la Belgique quand elle heurta un pavé disjoint et tomba. L'homme fut sur elle. Mais elle était déjà repartie, suivie de si près par le douanier qu'elle percevait distinctement le bruit de son souffle haletant. Une main lui attrapa le bras. Mais elle atteignait le poteau frontière, elle s'y cramponnait, hurlant de toutes ses forces. « Au secours ! Au secours !» Il n'y avait personne. Le douanier, furieux, l'enlaça à bras le corps, essaya d'une secousse vigoureuse de lui faire lâcher prise. Mais Germaine enfonçait ses ongles dans le poteau, s'y agriffait comme un chat. Alors le douanier lui donna un violent coup de poing sur les doigts. Germaine ouvrit les mains, et bien qu'elle se débattît encore, l'homme l'entraîna jusque dans le bureau de douane. Il n'y avait là qu'un second préposé et la visiteuse. Sans résister davantage, Germaine tira de son corset et de sa jupe ses 3 kilos de tabac. « C'est tout ?» demanda le douanier qui l'avait arrêté. « Oui, » dit Germaine en pleurant, « pas la peine de me visiter !» Elle dut cependant se laisser encore fouiller des pieds à la tête par la visiteuse, les deux hommes étant sortis sur le trottoir et ayant fermé la porte du poste. « Eh bien, » demanda le préposé, quand, la fouille achevée, il put rentrer dans le poste. « Est-ce que vous avez de l'argent? Voulez-vous transiger ?»«
Ça me ferait combien ?»
demanda Germaine, en qui cette proposition avait réveillé un espoir. « Ça, d'après le tarif, autour de 800-900 francs. » Germaine s'effondra.
« Je n'ai que 43 francs. »
« Alors, rien à faire. » Germaine se remit à pleurer, moitié par chagrin, moitié pour attendrir les douaniers. Mais ils étaient habitués, ils restaient insensibles.
« Qu'est-ce que vous allez faire de moi ? » demanda-t-elle.
« Vous le verrez bien. Attendez toujours que le lieutenant arrive. » Ces paroles donnèrent une idée à Germaine.
« Monsieur, » demanda-t-elle, « est-ce que vous connaissez Lourges, Désiré Lourges ?»«
De la mobile, bien sûr. »«
Bon, eh bien, prévenez-le que Germaine est arrêtée. »«
Qu'est-ce que ça peut lui faire? Il vous connaît ?»«
Oui, prévenez-le. »«
Faut pas se foutre de nous, la belle. Lourges a d'autres chats à fouetter. »
« Écoutez, prévenez-le toujours, ça ne coûte pas cher, hein ?»
insista Germaine, sentant que les deux hommes étaient ébranlés.
« Vous verrez qu'il viendra tout de suite. » Les douaniers se regardèrent. « Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce que je vous demande là? Ce n'est pas un bien grand service. »«
Bah !» dit l'un des hommes, « on peut toujours lui téléphoner à la mobile. On verra. »
Une heure après, Lourges arrivait en taxi. Et, l'affaire arrangée avec ses collègues, il emmenait Germaine à Dunkerque. Mais il ne la relâcha pas. Il la fit monter avec lui dans son bureau, au siège de la brigade mobile. Et, derrière elle, il donna un tour de clé à la porte. Il vint s'asseoir dans son fauteuil à bascule. Alors seulement, il lui parla. Car, depuis qu'il était arrivé au poste de douane où elle était retenue, il ne l'avait ni interrogée, ni même regardée.
« Tu vas bien, la fille, » dit-il. « 3 kilos ? Tu deviens folle ? Tu prends les douaniers pour des imbéciles ?»
Germaine, écrasée sur sa chaise, s'était remise à pleurer.
« Qu'est-ce qui se passe ?» continua Lourges. « T'étais à sec ?»
Germaine voulut répondre, mais ses sanglots l'étouffaient.
« Foutue bête !» s'exclama Lourges.
Germaine releva la tête, ne comprenant pas.
« Oui, foutue bête !» répéta Lourges. « Tu penses que je n'ai pas compris ?»«
Quoi ?» put enfin interroger Germaine.
« Que c'est ton beau merle de Sylvain qui te fait faire ce métier. Il en a marre de toi, ma fille. C'est sa poulette de Furne qu'il lui faudrait maintenant. Et quand tu seras coffré, il sera débarrassé, il pourra retourner là-bas, hein ? Tiens, je ne comprends pas qu'une femme comme toi, à la page comme tu l'es, se laisse arranger ainsi, alors que, si tu avais voulu... »
Il s'arrêta. Il s'était levé dans sa colère. Et Germaine courut à lui, se jeta dans ses bras avec passion.
« Oui, » dit-elle en paroles hachées, entrecoupées de larmes. « T'as raison, c'est une sale bête, et je suis imbécile à la fin. Je trime depuis des semaines, je suis malheureuse comme les pierres, il me fait courir avec du tabac dans tous les coins, il me fait frauder à tous les bureaux. J'ai manqué 100 fois de me faire pincer. Je n'ai plus rien à me mettre, il dépense l'argent... tout l'argent que je lui gagne.
Et c'est pour ce type-là, Germaine, que tu m'as repoussée. Et pourtant, qui est-ce qui t'a mise dedans? Et qui est-ce qui te tire d'affaire?
C'est vrai, Lourges, j'ai eu tort. T'es meilleure que lui, je serai plus heureuse avec toi. Je le vois bien maintenant. Tiens, je voudrais qu'il foute le camp, qu'il se fasse coffrer, qu'il en attrape pour 10 ans.
« Ça, c'est pas difficile. Quand tu voudras, tu peux me le donner. Je ne le raterai pas. »«
Et je le ferai. Oui, je le ferai. Je le donnerai. Tiens, t'as qu'à faire une perquisition, aujourd'hui, demain, quand tu voudras, chez nous. Comme maintenant, il y a plus de 20 kilos de tabac dans la cave. »«
Bon, dit Lourges, tiens ta langue, hein. Demain, je viendrai. Et je voudrais qu'il ne se laisse pas faire. On ne le raterait pas cette fois. » « T'en serais débarrassée pour longtemps, ma fille. Tu serais heureuse avec moi, tu sais ?»«
Oui, autrement qu'avec ce voyou. Il me dégoûte, je voudrais qu'il crève. Tiens, Lourges, si tu veux encore, je veux bien aussi. Il ne l'a pas volé, paie-toi. »
Lourges se paya.